Les Années-Lumière, édition du 11 juillet 2010. Doit-on vacciner les garçons contre le VPH? Le virus du papillome humain est responsable de certains cancers qui touchent aussi les hommes. Bonjour, ici Sophie-André Blondin en remplacement de Yannick Villedieu. Je suis en compagnie de toute l'équipe pour vous présenter cette édition de votre magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne. Une édition qui va commencer avec ces dernières nouvelles du VPH. On en connaît plus sur le virus lui-même, on n'a plus de données sur l'efficacité de la vaccination, des nouveaux tests pour le détecter. Tout cela a été discuté à la conférence internationale sur le VPH qui se déroulait à Montréal et à laquelle nous avons assisté. Et puis, au courrier des années-lumière, une question riche en énergie, en actualité, sur des combustibles fossiles, les gaz, le shale. Et pour terminer la première heure, la chronique des années-lumière en rappel, Rachel Légère nous sensibilise au problème de l'érosion des berges qui recule. Mais nous allons avancer vers la deuxième heure. Nous poursuivrons notre série estivale qui souligne l'année mondiale de la biodiversité, série qui s'intitule « 6 milliards d'espèces, une planète ». Cette semaine, Gaëlle Lucia Birdou, vous êtes allée à la chasse aux agrilles.
Une chasse scientifique, les chercheurs fourbissent leurs armes pour s'attaquer à l'agrille du frêne, un insecte exotique qui menace nos forêts.
Ensuite, nous rediffuserons le reportage de notre collègue Marie-France Bélanger sur le développement de l'industrie des nanotechnologies au Japon, tout particulièrement le développement des nanotubes de carbone. Et enfin, nous terminerons cette émission avec l'auteur de la semaine, Chantal Srivastava.
Elle s'appelle Brigitte Proust. Elle a écrit « Belle », B-E-L, et « Bio » comme dans « Bel et bien », un livre donc qui fait l'éloge de la chimie, de la nature et de la chimie douce. C'est publié dans la collection « Science ouverte » au Seuil.
Mais tout d'abord, le VPH. Le VPH, mais en fait les VPH. Il s'agit de virus, le virus du papillome humain, et il y en a 207 formes différentes. C'est l'une de ces formes de VPH, par exemple, qui cause les verrues plantaires. Rien d'agréable, mais rien de mortel avec ces verrues. Une autre forme de VPH cause, celle-là, des verrues génitales, des condylomes. Moins agréable, mais soignable. Mais cette même forme de VPH est aussi responsable du cancer du col de l'utérus chez la femme. Et pas seulement des cancers féminins non plus, d'autres cancers, de l'anus, du pénis, des amygdales par exemple. On soupçonne même certaines formes de VPH de jouer un rôle déclencheur dans le cancer de la peau. Vous préféreriez vous tenir loin d'un tel virus? Compréhensible, mais c'est peine perdue. Si vous avez une vie sexuelle, même modeste, il y a 80% des chances que vous entriez en contact dans votre vie avec le VPH au niveau des organes génitaux. Le docteur Marc Stébène est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Cette semaine, il présidait la 26e conférence internationale sur le virus du papillome humain qui a regroupé 1700 spécialistes à Montréal.
C'est un virus qui a des affinités pour les muqueuses, donc la surface de notre œil, la bouche, l'œsophage, nos bronches, l'anus, donc des surfaces mouillées, plutôt glandulaires, et a aussi une affinité pour la peau. La peau est constituée complètement différemment, donc c'est des squames, ça ressemble un peu à un mur d'ardoise avec comme des briques empilées. Donc c'est des virus qui sont bien adaptés à l'ectoderme, donc la peau et les muqueuses. Et on commence tranquillement pas vite à comprendre, entre autres, dans les régions de notre corps où il y a une interface entre les muqueuses et la peau, comme à notre anus, à l'entrée du vagin, dans notre bouche, autour des dents, autour des amygdales, au niveau des yeux, il y a de ces cellules immatures qui peuvent, selon la demande de notre corps, donner une cellule glandulaire ou une cellule épidermoïde. Donc, ces cellules-là sont hautement spécialisées, donc plus faciles à déranger dans leur multiplication. Et le virus semble donner le plus de problèmes où il y a de ces zones de transformation.
Marc Stébène décrivait les zones où on retrouve le virus du papillome humain. Et lors de la conférence cette semaine, Martin Cast est venu dresser un portrait encore plus intime des mécanismes qui permettent au VPH de causer des infections. professeur de microbiologie, d'immunologie, d'obstétrique et de gynécologie à la University of Southern California. Son laboratoire vient tout juste d'identifier une molécule qui pourrait servir de portier, une molécule qui déverrouille la porte d'entrée pour le VPH dans les cellules du corps humain.
Le virus se lie à une kyrielle de molécules, une par une. Il est transmis d'une molécule à la prochaine jusqu'à atteindre la molécule qui lui permet d'entrer dans notre cellule.
Sort of the doorman to our system.
Yeah, it's the doorman to that system.
And now the next step would be how to close the door, lock the door.
That's absolutely right.
Effectivement, une fois le portier identifié, il y a des médicaments ciblés qui peuvent contribuer à traiter, à verrouiller la porte d'entrée du virus vers nos cellules. C'est ce que vient de confirmer Martin Cast. Mais le gros des efforts de la science est placé plutôt sur la prévention du VPH. Et l'arme choc, c'est le vaccin. Les campagnes de vaccination en cours au Canada depuis 2008 ont atteint des couvertures de 80 % au Québec. C'est l'un des plus hauts taux de couverture au monde. En Ontario, ce sont 50 % des jeunes filles qui ont été vaccinées contre le VPH. Dans le monde, 30 millions de femmes ont reçu des doses et la plupart d'entre elles ont reçu un vaccin quadrivalent qui protège contre 4 de la douzaine de souches de VPH qui peuvent causer le cancer du col. D'autres femmes ont reçu un vaccin bivalent qui protège contre les deux souches les plus virulentes. Et dans les cartons des compagnies pharmaceutiques se trouvent des vaccins qui couvriront un jour 9 souches différentes de VPH. Selon les résultats présentés cette semaine à Montréal, les essais cliniques et les programmes de vaccination publique en cours ont démontré qu'il s'agit de vaccins qui offrent une bonne protection à court terme contre les précurseurs des cancers et des vaccins qui sont sûrs. Marc Dionne est directeur scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Il explique les aspects qui continuent de faire l'objet d'études dans le programme québécois de vaccination contre le VPH.
On veut, entre autres, savoir est-ce que ces jeunes filles qu'on vaccine ont une bonne réponse immunitaire. Du côté sécurité du vaccin, on s'inquiète pas trop. On pense que la sécurité va être la même qu'avec les filles plus âgées. On voudra s'assurer aussi que le vaccin va protéger ces jeunes filles-là aussi contre les précurseurs du cancer et éventuellement contre le cancer. On veut aussi évaluer là, des choses plus standards au niveau lorsqu'on introduit un nouveau programme de vaccination, entre autres bien connaître c'est quoi la couverture vaccinale, connaître les attitudes des médecins, les attitudes des parents, des jeunes filles qu'on vaccine par rapport au vaccin. Un des aspects importants dans l'évaluation actuellement du programme de vaccination, c'est l'impact que ce programme va avoir sur le dépistage du cancer du col, voir comment le programme de vaccination change l'épidémiologie des infections à VPH et devrait nous amener à changer éventuellement nos stratégies de dépistage du cancer du col.
Marc Dionne, responsable maladies infectieuses pour la santé publique au Québec, sur l'évolution des programmes de dépistage du cancer du col avec l'avènement de la vaccination. Nous y reviendrons aux nouveautés du côté du dépistage, mais restons pour le moment dans le monde de la vaccination. On sait maintenant que le VPH cause des cancers qui touchent aussi les hommes. Doit-on les vacciner, eux aussi? Le vaccin pour les hommes a été approuvé il y a quelques mois, mais pour Marc Brisson, qui détient la chaire de recherche du Canada en modélisation mathématique de maladies infectieuses, l'étude coût-bénéfice d'une telle initiative de vacciner les garçons ne milite pas en faveur de la vaccination des garçons contre le VPH. En tout cas, pas ici et pas maintenant.
Ce que nos modèles prédisent, c'est qu'en vaccinant les filles, avec la couverture qu'on a au Québec, qui est très, très élevée, 80 % on aura non seulement un effet de réduction de l'infection chez les filles, les femmes, mais aussi un effet chez les garçons, parce que les garçons et les hommes ont des relations avec les filles et c'est une maladie transmissible sexuellement.
Alors, la population des garçons, des hommes, est protégée à cause de la vaccination des filles?
Exactement.
Ça protège pas, par exemple, certains sous-groupes de la population des hommes. On parle de la communauté homosexuelle, par exemple.
Oui, la population des hommes qui ont des relations avec des hommes sera pas affectée par une vaccination des filles. Et c'est là où on doit penser à des questions d'équité par rapport à la vaccination des hommes.
Alors, pour l'instant, c'est pas dans les cartes un programme de vaccination pour les garçons.
Je dirais pas ça parce qu'il y a plusieurs critères lorsqu'on doit prendre une décision par rapport à une intervention en santé. On a l'équité, on a l'efficacité, le fardeau de la maladie dans le groupe en question, coût-efficacité des questions politiques et de santé publique. Donc, moi, je travaille sur un aspect de tous ces critères-là. C'est aux décideurs de santé publique de tout évaluer et ensuite de tirer une conclusion. Mais la situation dans les pays en voie de développement est complètement différente que les pays développés. Je pense que dans les pays en voie de développement, ce qui serait le plus judicieux, c'est d'avoir un prix de vaccin qui est abordable, puis de vacciner le plus de femmes possible. Si on n'arrive pas à une couverture assez grande chez ces femmes-là, on va devoir regarder si ça serait efficace de vacciner, co-efficace de vacciner les hommes pour ces pays-là.
Le professeur Marc Brisson de l'Université Laval, spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses. Les pays en développement, même les populations plus pauvres comme les Autochtones du Canada, vivent une toute autre réalité par rapport au cancer du col et donc vis-à-vis du virus du papillome humain. Les ravages du cancer du col ont diminué en raison du dépistage qu'on effectue, les cytologies, ces fameux pap tests ici. On meurt beaucoup moins ici qu'avant du cancer du col. Ce n'est pas le cas dans les pays pauvres. Des 500 000 femmes qui reçoivent chaque année un diagnostic de cancer du col, 85 % vivent dans des pays pauvres et leurs chances de survivre à ce cancer sont minces. Sylvia Franceschi dirige le groupe Épidémiologie des cancers et des infections au Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé à Lyon.
La manque chronique de personnel qualifié et d'infrastructures dans les pays pauvres rend, si vous voulez, le vaccin la solution la meilleure. Alors, nous, on encourage la mise en place des programmes de vaccination et aussi de dépistage.
Est-ce qu'il y a un facteur plus peut-être psychosocial de résistance au vaccin du fait qu'il s'agit d'une infection transmissible sexuellement?
Alors, franchement, pour ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça, c'est la seule chose où les pays pauvres ont plus de chances que les pays riches, parce que les pays pauvres croient encore au vaccin et ont encore l'expérience de la gravité du problème de cancer de la cervix. Chez nous, les gens sont un peu gâtés par le fait que le dépistage a réduit énormément le cancer de la cervix. Alors, moi, j'ai eu personnellement l'expérience, si on va au Pérou, ou en Ouganda, ou en Vietnam, ça suffit de parler de l'existence d'un vaccin qui prévient le cancer de la cervix et les familles sont complètement enthousiastes. L'HPV est transmis d'une façon sexuelle, mais il ne faut même pas l'exagérer, le considérer comme les autres maladies de transmission sexuelle, parce que le virus est tellement répandu dans toutes les populations, hein. C'est pas comme la gonorrhée, comme la syphilis. Alors disons qu'il ne doit pas être stigmatisé pour la simple raison qu'il est très, très, très fréquent et on le trouve dans toutes les tranches de la population.
Sylvia Franceschi de l'Organisation mondiale de la santé. Des populations pauvres qui passent dans l'ombre face aux progrès qui sont réalisés pour prévenir le cancer du col ou le cancer du cervix, comme notre invité le disait. Ces progrès ne concernent pas que les vaccins. Les tests de dépistage sont au cœur d'un virage technologique. La cytologie, pratiquée par frottis chez le médecin, cible des cellules anormales qui se sont développées en raison d'une infection au VPH. Le frottis manque ces cellules la moitié du temps. Il faut donc faire ces tests PAP à intervalles rapprochés. La nouvelle génération de tests de dépistage, les tests VPH, cherche le virus du VPH lui-même, en fait l'ADN des papillomavirus. J'ai discuté des tests de dépistage actuels et futurs avec Marie-Hélène Méran, gynécologue et chercheure au Centre hospitalier de l'Université de Montréal.
On utilise le test PAP. Il n'y a pas de programme au Québec. On est la seule province canadienne à ne pas avoir de programme.
Mais parlons justement du test PAP au Québec. Est-ce que la couverture a baissé du fait du manque de médecins de famille, du fait que ce n'est pas tous les médecins de famille qui acceptent de faire des tests PAP?
C'est une excellente question auquel on aimerait beaucoup avoir la réponse. On a de la difficulté à mobiliser nos décideurs pour avoir des bases de données fiables. On sait que dans plusieurs régions, entre autres à Montréal, le problème d'accès est criant et on est très inquiet de ça, mais on n'a aucune façon de le mesurer.
Parlons plus spécifiquement des tests eux-mêmes maintenant. Ce qu'on détecte maintenant, ce sont des cellules anormales, donc l'effet a posteriori de certaines formes de VPH qui seraient plus virulentes ou plus insistantes. Et ça, c'est perfectible et c'est en train de changer aussi dans le type de détection qu'on veut faire.
Tout Tout à fait. Le cancer du col est un des seuls cancers qui est causé par un agent infectieux. Et c'est certain qu'à partir du moment où ça a été confirmé, on s'est dit qu'on devrait pouvoir utiliser ça pour améliorer le dépistage. Et donc, on peut trouver la signature moléculaire, donc l'ADN du VPH au niveau du col des femmes. Et à ce moment-là, on sait qu'elles sont à risque plus élevé de développer un précancer et un cancer du col. Donc, ça prend des tests qui vont, si possible, trouver les infections problématiques et pas les infections qui vont s'en aller toutes seules. Quand une femme est infectée par un de ces VPH qu'on dit oncogène, ce qui veut dire qu'il peut causer le cancer, la majorité du temps, ces infections-là aussi vont disparaître. Et donc, la façon de trouver les infections qui vont causer problème, c'est premièrement d'utiliser un bon test, l'utiliser dans le bon groupe d'âge. Et je vous dirais, la troisième étape sur laquelle il y a beaucoup de recherches qui a été présentée cette semaine, c'est pour trouver qu'est-ce qu'on fait justement avec les femmes qui sont positives, mais qui n'ont pas de précancer sévère ou de cancer.
Est-ce que ça va changer la fréquence à laquelle on aura besoin d'être testé?
En fait, en ce moment, ce test-là est utilisé uniquement aux 5 ans aux Pays-Bas et il y a certaines juridictions européennes qui sont en train de regarder la possibilité de l'utiliser aux 6 ans. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que notre pratique de faire des tests PAP annuels est extrêmement mauvaise parce que de le faire à chaque année comparativement aux 2 ans et dans certaines places même aux 3 ans, les bénéfices sont les mêmes. Tout ce qu'on le fait en le faisant annuellement, c'est qu'on augmente les risques associés au dépistage. Il y a même certains chercheurs qui ont parlé de la possibilité de faire le dépistage aux 10 ans, éventuellement, quand on aura l'évidence, ce qui fait beaucoup de sens quand on comprend l'évolution du cancer du col, qui se fait habituellement, tranquillement.
Est-ce qu'on aura les moyens, un jour, d'avoir ces tests-là?
Moi, la question que je poserais, c'est est-ce qu'on a les moyens de ne pas changer? Ce que toutes les études montrent, c'est qu'à moins d'avoir un programme organisé dans lequel le test PAP a une performance exceptionnelle, ce qui arrive dans certains milieux, mais l'évidence nous dit que ce n'est pas ce qui arrive au Canada en ce moment, à ce moment-là, ce qu'on appelle le profil coût-efficacité est meilleur avec le test VPH. Donc, le test coûte un peu plus cher, mais on le fait moins, beaucoup moins souvent. Et surtout, on diminue dramatiquement le nombre de cancers.
Si on regarde dans une sorte de boule de cristal encore plus loin, avec un programme de vaccination efficace, on devrait un jour ne plus avoir besoin de dépister.
Non, on va toujours avoir besoin de dépister parce qu'il y aura des gens qui choisiront de ne pas avoir le vaccin et surtout parce qu'il est peu probable qu'on ait un jour un vaccin qui inclut les 12 types qui peuvent être associés au précancer ou au cancer.
Marie-Hélène Méran, gynécologue et médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Après le vaccin contre le VPH, après les tests de dépistage, parlons de vous, messieurs. Lors de la 26e conférence sur le virus du papillome humain cette semaine à Montréal, il était question de l'homme invisible. Invisible parce que, par exemple, les cancers du pénis causés par le VPH sont beaucoup plus rares que le cancer du col. Mais rappelons-le, les contacts sexuels peuvent aussi transmettre le VPH. Des souches du virus sont responsables de près du tiers des cancers qu'on dit oropharyngés autour des amygdales, par exemple. Un anus, des amygdales, de la peau, ça, tout le monde en a. Le VPH, c'est donc un problème qui touche aussi les hommes. Là-dessus, François Coutelet, microbiologiste clinique et infectiologue au Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal.
C'est sûr que l'homme était moins une cible parce que c'était des maladies à prévalence moindre. Par contre, quand on se concentre sur l'infection et les maladies précancéreuses et cancéreuses qui peuvent se retrouver chez des hommes infectés par le VIH, là, on se rend compte que la proportion est importante. De fait, quand on regarde l'incidence du cancer de l'anus chez les hommes infectés par le VIH, il est plus élevé que le cancer du col l'était chez la femme avant le programme de dépistage avec la cytologie. Donc, c'est une maladie importante chez certaines sous-populations d'individus. Et c'est vrai qu'il y a des études en cours à Toronto et à Montréal qui investiguent cette problématique-là chez les hommes infectés par le VIH.
Évidemment, c'est une maladie qui touche les hommes, mais il y a un rôle des hommes parce que les hommes demeurent un réservoir probable ou possible d'infection et de réinfection chez la femme?
C'est évidemment la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui vient avant, là, ça n'est pas évident. Et il y a une étude actuellement en cours de transmission à Montréal, conjointement à l'Université McGill et l'Université de Montréal, où on investigue la dynamique de transmission dans les nouveaux couples entre l'homme et la femme. Et cette dynamique-là démontre que la transmission du virus est très facile. C'est le virus qui se transmet le plus rapidement. Après une ou deux relations, après un ou deux gestes, il va y avoir transmission entre un individu infecté et non infecté. Donc, je pense qu'il faut voir que c'est une infection qui est quasi universelle chez les individus sexuellement actifs, qui se transmet facilement et qui plus est, qui peut persister. Donc, si vous êtes infecté actuellement, c'est peut-être votre partenaire d'il y a 20 ans, pas votre partenaire actuel. Donc, c'est une maladie transmise sexuellement, mais qu'on ne doit pas aborder ou discuter avec les patients ou les individus comme une maladie transmise sexuellement standard comme la chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis.
Le microbiologiste et infectiologue François Coutelet sur la particularité du VPH parmi les infections transmises sexuellement et d'abord sur les particularités qu'on découvre au sujet du VPH chez les hommes. Mais si hommes et femmes sont touchés, ils ne sont pas égaux devant l'infection et puis devant les cancers causés par le VPH. À titre d'exemple, les résultats d'une étude menée par le laboratoire de Denise Galloway, directrice du Cancer Biology Program au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.
We've done a study in Seattle where we've looked at young college women attending the University of Washington and a very similar group of young college men, so they were all entered our study between the ages of 18 and 20 years old.
Nous avons comparé la présence d'ADN du VPH chez les filles et les garçons des étudiants de 18 à 20 ans. Les hommes avaient plus d'ADN du VPH sur les organes génitaux que les femmes. 32% des femmes en avaient, alors que c'était le cas pour 65% des hommes. Mais la surprise, c'est quand nous avons examiné les anticorps. Par exemple, pour le VPH16, qui a un lien important avec les cancers, après 2 ans, 56% des femmes avaient développé des anticorps au VPH16. Mais seulement 11% des hommes.
When we followed the women who had HPV 16 DNA for 2 years, 56% of them developed an antibody response. And in contrast, in the young men, only 11% of those who had HPV 16 DNA developed an antibody response. And that's really important.
C'est important parce que nous utilisons les anticorps comme mesure. Si les hommes ont produit beaucoup moins d'anticorps, est-ce que ça suggère qu'il s'agit d'une mesure peu fiable dans leur cas? On avait pourtant détecté beaucoup d'ADN du VPH16 chez les hommes. Que penser du fait que le virus n'ait pas causé de réponse immunitaire? Peut-on parler d'infection dans ce cas? Sont-ils seulement porteurs, vecteurs? L'infection est-elle trop faible pour qu'ils développent des anticorps?
Enough of an infection to make antibodies. These are all questions that we're trying to understand.
Plus de questions que de réponses au sujet du VPH, comme le soulignait Denise Galloway du Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle. Elle le disait comme tous nos invités d'ailleurs et 1700 experts mondiaux qui participaient cette semaine à la 26e conférence internationale sur le VPH à Montréal.
Lily Boisvert, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radiotradeunioncanada.ca/lumière et également en diffusion en direct par satellite Sirius et en flux MP3. Vous pouvez aussi emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Les Années-Lumière débordent de l'espace-temps.
Le facteur est passé et voici la question qui nous a laissé.
Bonjour, mon nom est Nathalie Desserres et j'habite à Saint-Marc-sur-Richelieu. Il est question ces temps-ci d'exploitation du gaz de schiste. On a beaucoup de questions qui n'ont pas encore été répondues, donc je crois que c'est la bonne place où appeler. Je voudrais savoir d'où vient ce gaz et je veux savoir à quoi il s'apparente. Est-ce que c'est un genre de gaz propane, par exemple? Il voudrait savoir aussi à quoi il sert et de quoi il est composé. Est-ce que l'impact sur l'environnement est le même et comment l'extrait-on du sol? Merci beaucoup.
Pour répondre à Mme de Serre, Chantal Srivastava a joint un spécialiste des hydrocarbures, le géologue Denis Lavoie du Bureau du Québec de la Commission géologique du Canada. Il fait tout d'abord une petite mise au point quant à la manière de nommer ce gaz dont parle notre auditrice. Il préfère parler de gaz de shale et non de schiste. Et voici pourquoi.
Pour les géologues travaillant en Amérique du Nord, le terme schiste réfère à une roche qui a été altérée à des conditions de température et de pression très élevées, roche qui n'a pas de potentiel pour générer du gaz naturel. Les roches auxquelles fait référence la dame dans sa question, en fait, on les appelle des shales. C'est une roche à grains très fins, une roche sédimentaire, à partir desquels, si cette roche est riche en matière organique, on peut produire du gaz naturel. Donc, on préfère parler de gaz de shale, finalement.
Alors, par rapport au pétrole et aux autres formulations de gaz naturel, c'est un hydrocarbure qui est fréquent?
Lorsque la matière organique, qui est le produit à partir duquel tous les hydrocarbures sont formés, lorsque la matière organique s'accumule dans un sédiment qui, par la suite, va devenir une roche, cette matière organique va subir diverses transformations. Donc, les lipides et les protéines qui la constituent vont se briser dû à l'effet de la température. Ce que l'on va donc produire initialement, ce sont de longues chaînes de carbone et d'hydrogène, qui est le pétrole. Et en augmentant la température, on va briser ces chaînes pour en former des produits avec des chaînes moléculaires de plus en plus courtes. Et ultimement, le méthane, qui est la chaîne la plus courte au niveau des hydrocarbures. Le gaz de shale, le gaz auquel fait référence la dame, en fait, c'est du méthane. Ce n'est pas du propane. Le méthane, qui est un composé de carbone avec 4 atomes d'hydrogène.
CH4, donc. Oui.
Exactement. Alors que le propane est un composé chimique avec la formule C3H8.
Alors, M. Lavoie, notre auditrice habite Saint-Marc-sur-le-Richelieu. Mm-hmm. Elle fait référence au fait qu'on va commencer l'exploitation, qu'on songe à le faire dans son secteur. C'est une ressource qui est abondante, donc, dans certaines zones, comme celle où elle habite?
Dans la région, dans le sud du Québec, effectivement, on sait depuis quelques années que cette unité qui renferme du gaz naturel, donc on appelle l'échelle d'Utica, renferme des quantités énormes de gaz naturel. Le problème avec ce gaz qui est trappé dans le shale, c'est comment l'extraire de la roche. Dans la région considérée là, par les compagnies qui font de l'exploration présentement au Québec, la cible, donc ces shales d'Utica, sont à des profondeurs entre 2,5 km et 3 km. Donc, on se doit de créer de petits conduits dans à partir desquels la migration des hydrocarbures va se faire du shale vers le trou de forage.
On fait ça comment, M. Lavoie?
On fait ça parce qu'une technique qui est utilisée depuis tout près de 50 ans par l'industrie pétrolière, c'est-à-dire la fracturation hydraulique. Cette fracturation hydraulique se fait dans des forages horizontaux. C'est une injection dans le trou de forage, une injection à très haute pression de fluide, principalement d'eau, chargée de grains de sable qui vont, par pression, créer des micro-fractures et les grains de sable dans le fluide vont garder ces micro-fractures ouvertes et vont permettre au gaz donc de s'échapper de la roche vers le forage.
Quand vous dites horizontal, c'est qu'on fait un trou maître et par la suite, on a des branches comme un arbre souterrain, si on veut?
Exactement, oui, tout à fait. Comme par exemple dans le sud du Québec, le forage vertical, donc on fait un trou vertical qui peut atteindre tout près de 1,5 km en profondeur. Et à un certain moment donné, on fait une déviation du trou de forage qui va progressivement devenir horizontal afin d'initier la production de gaz naturel pour le récupérer en surface.
Notre auditrice, Mme de Serre de Saint-Marc-sur-le-Richelieu, s'inquiète de l'impact environnemental. On entend parler d'histoires d'horreur de puits contaminés à cause de ce genre de pratiques dans l'Est des États-Unis. Ça peut être dangereux en termes environnementaux? Il y a un impact non négligeable?
En fait, il y a deux grands possibles impacts environnementaux qui ont trait à l'eau. Le premier impact potentiel, c'est la préservation des nappes d'eau potables de faible profondeur.
Les aquifères, donc.
Les aquifères, exactement. Ces aquifères, dans le sud du Québec, sont généralement à des profondeurs qui vont au maximum de 200 à 300 mètres. La façon de s'assurer de préserver la qualité de l'eau souterraine, c'est de faire ce qui est appelé des coffrages de béton. C'est-à-dire que sur le pourtour du puits de forage, aller jusqu'au plus profond connu des aquifères dans une région, le trou de forage est isolé par diverses couches de béton et de coffres de tubulures de métal qui vont isoler les aquifères où les eaux potables sont présentes des produits qui circulent, des fluides et du gaz qui circulent dans le trou de forage.
Quel genre de produits, à part l'eau et le sable, on a dans ces liquides à sous très haute pression, dans ces fluides?
C'est un fluide qui est principalement constitué d'eau à au-delà de 95%, approximativement 4% de sable pour garder la porosité ouverte et 1% d'additifs chimiques variables qui dépendent selon la nature minérale, donc la nature minéralogique du shale qui est à fracturer, qui peuvent inclure des acides pour aider à dissoudre la roche, qui peuvent inclure également des produits pour s'assurer d'une stérilité bactérienne à ces niveaux. Donc, ce sont des composés chimiques variés, dont la liste est disponible sur la majorité des sites web des compagnies qui travaillent actuellement dans le sud du Québec.
Alors, on a des coffrages, donc, qui sont une première barrière de protection, mais il y a quand même toute cette eau qu'on utilise, dans laquelle on a des additifs. On fait quoi de cette eau-là? Après, elle va où?
C'était donc le deuxième possible problème environnemental. Effectivement, on se doit d'utiliser des quantités assez importantes, même très importantes d'eau, pour s'assurer d'une fracturation hydraulique en profondeur efficace. Donc, c'est de l'eau qui est généralement prise dans les systèmes de surface des environs, donc que ce soit le fleuve Saint-Laurent ou les rivières, etc. Et cette eau est injectée avec les différents additifs discutés précédemment. Cette eau, après qu'elle ait fait sa fracturation en profondeur, va remonter en surface lorsque les pressions sont relâchées. Et les compagnies qui font l'exploitation de cette ressource se doivent de récupérer la totalité de cette eau, qui est évidemment donc non potable, non utilisable pour la consommation humaine ou pour quelque méthode ou industrie que ce soit, et se doivent donc de la récupérer, de la traiter avant soit de la réutiliser ou de la remettre dans le milieu naturel lorsqu'elle est traitée de façon satisfaisante.
Ben écoutez, M. Lavoie, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir, madame.
Au revoir.
Chantal Srivastava s'entretenait avec le géologue Denis Lavoie de la Commission géologique du Canada. Vous avez des questions de nature scientifique, on les attend. Vous pouvez nous les transmettre par téléphone au numéro de téléphone suivant. Si vous appelez de la région de Montréal, composez le 514-597-6166, 514-597-6166. Si vous appelez de l'extérieur, vous composez le 1-800-752-9050, 1-800-752-9050. On reçoit aussi vos questions dans notre boîte de courriel à l'adresse suivante, lumière@radio-canada.ca. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure dans notre série sur la biodiversité, comment protéger nos forêts contre un insecte exotique, la grille du frêne.
La nature, c'est un intégrateur d'une foule de mesures qui fait que tout est en équilibre. S'il y en a un qui bouge, il se fait rabattre un peu par un autre mécanisme qui le replace à sa position. Et autour de la grille qui est ici, le jeu de domino ne tient pas là, parce qu'il est tout seul. Donc, il n'y a pas vraiment de parasitoïdes qui l'ont trouvé, de prédateurs, de maladies vraiment installées. Donc, c'est vers ça probablement qu'il faut aller, donc vers différents outils.
Et maintenant, en rappel, la chronique des Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
« La chronique des années-lumière avec cette semaine Rachel Légère. Bonjour Rachel.
Bonjour Yannick.
Directrice du Biodôme de Montréal, de retour de vacances. Vous faites déjà quelques semaines quand même.
Oh oui, deux semaines déjà.
Oui, en vacances dans votre coin de pays.
Oui.
Les Maritimes. Et justement, vous allez nous parler d'un effet des changements climatiques dont on parle assez peu souvent, c'est l'effet sur les côtes, sur les falaises, etc., sur les côtes. C'est bien ça?
Oui, je vais principalement parler de l'érosion des falaises. Donc, toute cette falaise qui recule d'année après année, c'est assez inquiétant.
Vous le voyez quand vous allez là-bas?
Ça a été vraiment un choc cet été.
Ah oui?
De voir tout le long des côtes, à Caraquet, à Bas-Caraquet, à Miscou, à Grand-Anse, vraiment les falaises. On voit des effondrements, on voit la falaise qui est tellement fragile. On voit vraiment les effets et moi, je me suis promenée sur ces côtes-là autant comme autant et ça m'a vraiment frappée cet été.
Et on sait que ce sont des falaises qui sont relativement fragiles au départ. C'est pas du granit, hein?
Non, c'est de la formation de roches sédimentaires, donc on parle de calcaire, de grès, de schiste. Donc, c'est de la formation géologique qui est assez friable. Mm-hmm. Donc, c'est comme des grosses galettes de roches accumulées et qui tombent par gros
sauts. Donc, gel, dégel, action des vagues, des marées, etc. Mais c'est quand même un phénomène tout à fait naturel, hein, cette érosion des falaises, quand même.
C'est naturel, mais oui. Là, on sent qu'il y a une accélération assez importante. C'est que, on parlait gel, dégel, c'est que la glace, normalement, était beaucoup plus épaisse et restait en place beaucoup plus longtemps. Là, avec le réchauffement climatique...
Et donc, protégeait le bas de la falaise, au moins pendant toute une partie de l'hiver.
Oui, c'est ça. Quand il y a de la glace, les vagues frappent moins, c'est sûr. Et en plus, la glace qui s'accumule au pied des falaises, c'est une protection supplémentaire.
Oui.
Mais là, quand il y a moins de glace et moins longtemps, la falaise est à la merci de toutes ces vagues-là et du vent beaucoup plus longtemps. Mm-hmm. Et ça fait des encoches à la base de la falaise. Et à un moment donné, il y a un surplomb qui ne tient plus, qui tombe.
Et qui tombe dans la mer.
On peut perdre un mètre par année.
Un mètre par année.
Et parfois plus, parce que l'encoche est parfois assez importante et ça tombe.
Alors évidemment, impact important sur les gens qui habitent là, sur les collectivités locales, c'est sûr.
Oui, il y a des terrains au complet qui disparaissent dans la mer. Il y a des infrastructures, il y a des routes qui sont le long des côtes, il y a des églises avec leurs cimetières qui sont vraiment tout près des côtes. Et là, il faut commencer à vraiment trouver des solutions urgentes parce que ça va vite. On parle, si on dit dans 50 ans, si on dit un mètre par année, c'est de la terre.
Donc, on est vraiment devant un problème dont on parle effectivement pas souvent. Qu'est-ce qu'on fait devant ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Là, on parle de vraiment toutes les côtes, aussi bien Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font parce qu'on parle de beaucoup, beaucoup de terrains. C'est pas partout, mais il y a beaucoup d'endroits dans ces provinces maritimes où on retrouve ça. Donc, il y a différentes solutions. Il y a une des solutions, c'est le retrait. Est-ce que c'est possible de se retirer un peu plus loin? Quand on n'est pas encore construit, oui, il essaye d'y avoir des zones où on dit on ne devrait plus construire là, ou encore des habitations temporaires, ou encore des choses qui sont essentielles, un port de mer, des choses qu'il faut qu'il soit sur le bord de l'eau. Sinon, ce qui peut se tasser un peu, il faudrait le prévoir.
Donc ça, c'est l'éloge de la fuite.
On fuit
devant la mer.
Quand on peut s'accommoder, donc sur pilotis, ou encore avoir des structures qu'on ne peut pas mettre ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou encore, c'est de protéger, vraiment protéger avec des murs de béton, avec des murs de grosses roches pour éviter que la falaise s'effrite. Mais là, on parle de coûts.
C'est des solutions très, très chères et qui ne peuvent pas s'appliquer sur des centaines et des centaines, sinon des milliers de kilomètres de côte.
On s'entend. Et souvent, il faut redéplacer des tracés de route au complet. Donc, quand on parle du retrait, souvent, on essaye de planifier le recul avec des données, mais c'est difficile d'évaluer à long terme. Et comme ça semble s'accélérer, comment on va faire pour dire, bon, mais là, c'est sécuritaire pour 20, 30, 40 ans, et là, ça ne l'est pas.
C'est vraiment un grand casse-tête, même de sécurité publique, je dirais.
Oui. Oui, parce que si les routes sont coupées, c'est de la sécurité publique, effectivement, qui devient... Et c'est de l'économie, et c'est tout ce qui s'ensuit.
Alors, on est devant un problème, comme je dis, dont on ne parle pas beaucoup, mais dont les gens, eux, doivent parler beaucoup parce qu'ils le sentent vraiment. Est-ce que vous diriez qu'on a quand même une prise de conscience au point de vue, la sécurité publique ou les chercheurs ou autres, une certaine prise de conscience de l'importance du phénomène?
quand j'ai commencé à préparer cette chronique ici, j'ai été agréablement surprise du nombre de recherches. Donc, il y a de l'espoir, oui. Il y a le groupe Uranos, il y a le GIEC, le groupe sur l'évolution du climat. Il y a même une nouvelle chaire de recherche à l'Université du Québec à Rimouski qui sont vraiment en train de se pencher sur ce problème-là pour voir à trouver des solutions pour aider. Donc, oui, mais il est évident que les changements climatiques ne sont pas là pour s'arrêter. Donc, il faut aussi essayer de travailler de ce côté-là pour réduire les impacts, mais les impacts, il va y en avoir.
Il y en a déjà, il va y en avoir de plus en plus.
Il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui se penchent sur le problème à essayer de mieux comprendre et à essayer de proposer des solutions.
Pour que votre belle Acadie demeure aussi belle et aussi grande qu'avant.
Il faut.
Rachel Légère, je vous remercie beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et voilà, c'est tout pour la première heure des Années-Lumière. Je prends le temps de vous dire que ce soir, à 18h30, à la télévision de Radio-Canada, l'émission Découverte vous propose l'histoire de Liuba avec sa nouvelle vie de bébé mammouth. Il s'agit d'un spécimen découvert dans la toundra sibérienne et qui va livrer ses secrets 40 000 ans après sa mort, lors de la première autopsie sur un spécimen de l'âge de glace. Ça, c'est à la télévision ce soir à 18h30, mais là, on est à la radio. D'ici là donc, restez des nôtres à la radio. Les Années-Lumière se poursuivent après le bulletin de nouvelles. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue, ici Sophie André Blondin pour vous présenter la suite de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Au menu de cette deuxième heure, la biodiversité avec la poursuite de notre série estivale. Cette semaine, Gaëlle Lucia Berdoux fait équipe avec Robert Lavallée aux trousses d'un insecte ravageur, la grille du frêne. Et puis, une rediffusion, celle du reportage que Marie-France Bélanger effectuait sur les nanotechnologies et les nanotubes de carbone au Japon. Et pour terminer, l'auteur de la semaine, elle s'appelle Brigitte Proust, elle signe Belle et Bio, Nature et Chimie douce, c'est aux éditions du Seuil. Mais tout d'abord, la série des Années-Lumière. Milliards d'espèces, une planète. La Terre pourrait compter 6 milliards d'espèces vivantes différentes. Alors pour souligner l'année mondiale de la biodiversité, nous diffusons tout l'été une série de reportages dans lesquels nous allons à la rencontre des scientifiques qui, sur le terrain, étudient différentes espèces, étudient différents habitats. Cette semaine, Gaëlle Lucia Berdoux s'est intéressée aux espèces exotiques qui s'invitent parfois chez nous et peuvent devenir une menace pour la biodiversité. C'est le cas de certains insectes, notamment la grille du frêne, un petit coléoptère asiatique qui monopolise l'attention des chercheurs américains et canadiens depuis quelques années. Il est arrivé très récemment au Québec. Pour l'instant, il n'a été repéré que dans la région de Carignan, en Montérégie. C'est donc là que les experts tentent de l'étudier et de le contenir. Gaëlle s'est donc rendue à Carignan rencontrer Robert Lavallée, entomologiste au Service canadien des forêts.
Voici, nous sommes à Carignan, en banlieue, peut-on dire, d'une zone infestée, une petite zone infestée par la grille du frêne. Ce que nous voulons suivre ici, c'est la période d'émergence naturelle de l'insecte, donc pour mieux déterminer quand l'insecte commence à émerger au printemps, quelle est sa période d'activité biologique, et puis normalement quand tout ça se termine un petit peu plus tard. On a les données qui ont été trouvées du côté américain, parce que la grille a été un problème là-bas bien avant de l'être ici. Mais ces modèles-là ne sont pas nécessairement applicables ici. Hein. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est toujours un mois avant nous. Puis pour nos conditions à nous, c'est il fallait le faire, il faut le faire. On n'a pas le choix. Il faut recommencer ces travaux-là. Mais compte tenu que c'est un insecte de quarantaine, ce serait probablement très facile à faire en laboratoire, mais puisqu'on ne peut pas déplacer l'insecte en tant que tel en dehors de la zone réglementée de Carignan, il faut rester ici. Et c'est pour ça qu'on a une installation un peu de fortune comme ça, mais qui livre quand même les réponses attendues.
Donc, ce qu'on a devant nous, ce sont des bûches qui sont dans des espèces de tuyaux.
Ce que vous voyez, là, c'est très joli. Ce sont des sonotubes bien connus du bricoleur amateur et non amateur. Et puis, habituellement, c'est du ciment qu'on coule à l'intérieur de ça. Mais nous, on a utilisé les sonotubes qui sont en carton, perforés aux extrémités. On a enfilé à l'intérieur des différents sonotubes qui ont différents diamètres, des bûches de frêne. Au printemps, il y a eu 200 arbres qui ont été coupés pour dans un contexte de contrôle de la grille du frêne. Donc, on n'a utilisé qu'une centaine de ces bûches-là. On a enfilé ça à l'intérieur des différents cylindres. On a refermé chaque extrémité du cylindre pour qu'il y ait une certaine circulation d'air. Et puis, à l'intérieur, c'est comme une boîte noire. Donc, l'insecte voit la lumière, si je peux dire, au bout du tunnel et est attiré par la lumière. Puis là, l'insecte, une fois qu'il est dans la bouteille, le petit bocal de plastique que vous voyez, nous, on peut le récupérer.
Donc, si on s'approche?
Si vous voulez voir de quoi a l'air cette portée-là, donc, comme je dis, je vais en prendre un vivant. Comme vous voyez, il n'est pas très actif. Puis vous voyez le miroitement absolument extraordinaire. On dirait qu'il est métallique. Et les
c'est
caractéristiques.
Vert
émeraude, c'est ça. C'est
donc c'est beau et ça a l'air assez inoffensif quand on regarde comme ça.
Oui, effectivement, ça a l'air inoffensif comme ça, sous le volet d'un petit insecte. Et puis il y en a d'autres, des agrilles au Québec. Hein. Lui, il est exotique, c'est ce qui le rend particulier, mais on en a d'autres, plusieurs espèces. L'agrille du bouleau, un autre bien connu en milieu urbain, là, qui est une nuisance ici sur le Tremble. Et puis bon, c'est ça, il y en a. Quand ils font partie de la faune naturelle, c'est moins de nuisance, mais là, il reste que dans le cas de la grille, la donne a changé. Là. Il n'y a plus rien de pareil. Là. C'est pas un insecte qui est bienvenu. La nature n'est pas vraiment prête à le recevoir.
Il est arrivé d'Asie, hein?
En fait, il est arrivé de l'Ontario, on pourrait penser, dans notre cas. Là. Mais au départ, c'est un insecte qui est originaire d'Asie, quand il a fait son entrée aux États-Unis en 2002. Et pour ce qui est de son arrivée au Québec, c'est un peu l'inconnu. Comment est-il arrivé ici? Certains sont arrivés à Carignan, là, mais comment a-t-il réussi à partir des secteurs infestés qui sont la péninsule ontarienne, qui est infestée mais de façon très importante, et c'est vraiment trop loin la distance qu'il y a entre ce secteur-là de l'Ontario puis Carignan pour que l'insecte ait pu faire ça d'un seul vol.
Parce que c'est le seul endroit au Québec où on en trouve, à part si on compte Gatineau. Là,
c'est un endroit connu, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça qui l'intrigue. Est-il ailleurs? Peut-être. Si ça n'avait pas été de l'éveil d'un émondeur qui travaillait à Carignan en 2008, probablement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à se parler de la grille. On aurait peut-être mis ça tout simplement sur le dos d'un dépérissement pour des facteurs X. Et puis, bon, on n'aurait pas su. Puis même lorsque l'insecte a été trouvé aux États-Unis au départ, le dépérissement du frêne était confondu avec une maladie qui était présente dans le frêne. Et puis, donc, on ne se souciait pas jusqu'à ce qu'on voit dans le détail que finalement, ce n'était pas nécessairement une maladie, mais il y avait un insecte derrière tout ça. Et lorsqu'on l'a découvert, évidemment, en Ontario, on pense qu'il était là depuis un bon bout de temps. Ce qui est particulier à Carignan, je pense qu'on l'a trouvé très, très hâtivement, très tôt dans la dynamique de l'insecte. Les plus vieux dommages qu'on retrouve sur les arbres ne sont pas si vieux que ça, remontent à un an ou deux avant. Donc, c'est un endroit très localisé, de très petite surface. La première année, on a coupé, j'y vais de mémoire, là, mais je crois que c'était 150 arbres à peu près. Puis au printemps passé, en mars 2010, on en a coupé 200, ce qui est très peu parce que ce sont des millions d'arbres qui sont passés aux États-Unis et en Ontario. Là.
Et si ce petit insecte d'un centimètre n'a pas pu voler de l'Ontario jusqu'à Carignan, il serait arrivé comment?
Oui, bien c'est là qu'est la grande question. Est-ce que c'est arrivé par du matériel d'emballage qui était contaminé?
Du bois
dont on sert pour transporter de la machinerie. Est-ce que c'est du bois d'un campeur? La réponse, on ne l'a pas. Mais c'est évident que c'est l'humain qui est le vecteur principal. L'insecte peut se déplacer. C'est de l'ordre, on considère, du kilomètre pendant les quelques années qu'il va être ici. Donc, il n'a pas pu se répandre beaucoup. Mais pour l'amener, par exemple, de la péninsule ontarienne à ici, d'un seul vol, c'est évident qu'il y a, Il y a un facteur humain derrière ça, là, c'est ça. Donc, la prévention ou l'information auprès du grand public est absolument essentielle pour que les gens prennent conscience de l'impact que peut avoir de transporter quelques bûches pour sauver 5 $ au camping. Et puis, au niveau de l'impact écologique que ça peut faire, c'est très grand. Là, je pense qu'on s'intéresse du côté américain. Ils sont très sensibles. Par exemple, le NASCAR qui va avoir lieu à la fin de l'été plus tard. Or, ces gens-là se promènent avec leur bois de chauffage. Donc, une campagne publicitaire qui les vise spécifiquement, eux, en leur disant, si vous prenez votre bois, prenez-le localement, puis brûlez-le à l'endroit où vous l'avez acheté. Ne le transportez pas ailleurs.
Et aux États-Unis, en Ontario, ce sont vraiment des millions d'arbres qui ont dû être abattus ou qui sont morts à cause de cet insecte-là.
Oui, effectivement, c'est ça.
Qu'est-ce que
ouais.
ça fait concrètement aux arbres?
Le dommage est assez fulgurant. Vous pourrez voir ça dans un guide qui a été publié par le Service canadien des forêts où on a photographié des frênes sur une période de 2 ans. Puis vous pouvez voir 2 ans, mais avec quelques photos, là, puis vous pouvez voir avec quelle vitesse évolue la défeuillaison, la défoliation et la mortalité des frênes. C'est 2-3 ans et c'est final. Et les raisons sont simples. C'est qu'au départ, bon, il y a une femelle ou quelques femelles qui viennent pondre sur la surface de l'écorce. La jeune larve, lorsqu'elle éclot, elle va pénétrer sous l'écorce et se nourrir de la seule partie vivante qu'il y a chez l'arbre, c'est ce qui est sous l'écorce. La vie chez un arbre, ça tient qu'à une rangée de cellules de cambium. Puis lorsque l'insecte fait entrave, le mange, donc vous venez de tuer l'assise de développement de l'arbre. Et bon, bien, une première année, les dommages ne sont pas catastrophiques dans le sens que l'arbre y survit. Mais après ça, la grille, probablement dans un phénomène d'attraction par des arbres qui sont plus stressés que les autres, on attire d'autres agrilles qui, eux, vont attaquer plus massivement, on peut s'y attendre. Puis en même temps, une femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs sur l'écorce. Donc, évidemment, vous avez un phénomène d'annelage qui va être absolument catastrophique. Et puis, si vous écorcez l'arbre qui est affecté par l'agrille, vous allez voir, finalement, j'ai à portée de main, là, je peux vous le décrire, il s'agit justement d'une bûche de frêne qui a été coupée. Et puis, donc, ce que vous voyez, on a l'impression que ça a été travaillé par un humain, comme on dit, du wood carving. Là.
C'est une bûche sans écorce, mais c'est vrai qu'elle est pleine de sillons qui ont été creusés.
Effectivement, c'est majeur. Un arbre ne peut pas résister à ça. Oui.
Donc, ici, Robert Lavallée, vous surveillez l'émergence, la naissance, le cycle de vie de la grille du frêne et la lutte véritable, vous la faites un petit peu plus loin. On va y aller?
Allons-y! Nous sommes maintenant à l'île Goyer. Nous sommes dans le secteur plus chaud, si on peut dire, au niveau de la grille. On n'est pas très loin d'endroits où on a trouvé des arbres qui étaient affectés et qui ont été coupés. Ici, sur l'île Goyer, il y a un secteur plus forestier. Ce qui nous intéresse, c'est de développer l'utilisation des pièges pour capturer la grille du frêne.
Donc, vous en avez installé un ici,
c'est
dans
ça,
les airs?
Ce que vous voyez dans un frêne... à mi-hauteur, si je pourrais dire, par rapport à la cime du frêne qui est derrière. C'était tout simplement un prisme de plastique dont les côtés sont repliés puis ils forment justement un prisme. Il est vert. Il a une couleur très particulière parce qu'on a comme démontré en laboratoire que c'était le vert, cette couleur-là, cette fréquence-là qui attirait le plus la grille. Et puis, on va aller voir ce que ça donne. C'est la première levée ce matin. On n'a pas vu de quoi ça avait l'air depuis la semaine passée. Donc, c'est
plein de colle et plein d'insectes collés.
C'est une surface qui est engluée. Il ne faut absolument pas toucher à ça, sinon vous allez en avoir jusque chez vous à la maison ce soir.
On reconnaît beaucoup de choses. Hein,
la biodiversité est là. Beaucoup de mouches. On voit des cléridés. Vous avez des insectes aquatiques ici, des conoctuidés. C'est pas mal tout, là, voyez-vous. Donc, il n'y a pas de capture positive, de fait, sur ce piège-là, ici.
Donc, vous n'avez pas attrapé d'agrilles sur ce piège-là?
Non.
C'est fréquent que vous arriviez, puis qu'il n'y en ait pas?
Oui, en fait, depuis le début du suivi, on a installé 5 pièges comme ça. Mais, en tout cas, pour l'instant, ça ne donne rien. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que si on n'en capture pas, c'est probablement parce que les populations ne sont pas si élevées que ça, ce qui est une bonne chose. Il ne faut pas être déçu de ne pas les capturer. Mais d'un côté, le piège n'est pas si efficace que ça. Mais s'il y en avait beaucoup, probablement que l'on pourrait en capturer. Donc, la bonne nouvelle que je vois dans ça, moi, c'est le fait de ne pas en capturer, c'est quand même un bon indicateur. Ce qui fait que ça fait partie des outils qui seraient à développer hein, quand même avec un bon leurre là, pour que ce soit réellement un indicateur, que quand il y a absence, on puisse conclure qu'il n'y a pas d'agril dans le coin. Mais dans le même secteur ici, avec le ministère des Ressources naturelles et de la faune, on a annulé des arbres pour créer des arbres à pièges. Et si vous voulez, on va en voir un, il n'est pas très loin. Donc, le principe est simple. Voyez-vous, un arbre annelé. Donc, on a carrément enlevé l'écorce. Cet arbre-là, il est condamné. On place une bande collante au-dessus. Dans l'hypothèse où l'insecte qui va être attiré, la grille qui va être attirée par cet arbre-là, pourrait aussi se coller sur le tronc. Et cet arbre-là va être coupé soit l'automne ou au printemps prochain, dans la prochaine vague de coupe, s'il y en a une autre.
Donc, vous sacrifiez des arbres en sachant que les arbres blessés, si on veut, là, vous avez enlevé l'écorce, attirent plus les
exactement. Les ce qu'on aimerait, c'est que cet arbre-là, qui a été pris comme ça, il était sain de lui au début, là, s'il pouvait devenir un arbre piège. Donc, c'est sûr qu'on sacrifie un arbre, là, mais c'est quand même pour un effet concentrateur. Si ça peut fonctionner, à ce moment-là, les agriles, au lieu de s'en aller au 4-20, sont comme attirés par cet arbre-là, puis lui, on le détruit, on sait où est-ce qu'il est, là. Donc, il y a un travail qui devrait être fait à l'automne ou au printemps l'année prochaine pour pouvoir complètement écorcer cet arbre-là pour déterminer est-ce que oui ou non la grille est venue pondre sur cet arbre-là. Puis si oui, bien à ce moment-là, ça pourrait peut-être confirmer le fait que des arbres à piège comme ça est une opportunité intéressante pour avoir un outil supplémentaire de lutte contre la grille de façon à le confiner pour éviter qu'il se disperse davantage à l'extérieur des îles infectées ici.
Donc, c'est une méthode de lutte, vous en avez d'autres?
C'est une méthode de lutte, effectivement. Ça peut paraître archaïque un peu, mais avec les insectes, parfois, c'est ça. Faut être humble. Et dans mon cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser... Il y a des facteurs naturels de contrôle, que ce soit les parasites, que ce soit les prédateurs. Il y a aussi des champignons qui sont régulateurs naturels chez les insectes. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de développer les champignons entomopathogènes contre la grille du frêne.
Donc, des champignons qui tuent...
Ils sont spécifiques aux insectes et même va être spécifique à la grille jusqu'à un certain point puisqu'il est isolé de la grille. Et si on l'a trouvé à l'intérieur de nos cylindres, il y a eu un insecte qui était porteur d'un champignon puis on a isolé ça dans nos laboratoires de Québec. Souvent, ces champignons-là sont très spécifiques. Si vous le testez contre un agrile puis contre d'autres insectes, il va être beaucoup plus efficace sur la grille, puis jusqu'à un certain point, affectera peu les autres. Donc, il est important de trouver une spécificité qui soit la plus précise possible. L'utilisation du champignon est faite dans le contexte d'une utilisation avec un piège qui lui-même va être attirant pour l'insecte. Puis en plus, il y a un leurre à l'intérieur de ça. Fait que normalement, bien que vous avez vu le panneau, il est recouvert d'une multitude d'insectes, il reste quand même que ce qu'on vise, c'est de pouvoir attirer la grille du frêne. Et ce qu'on est en train de développer, c'est tout simplement un prototype semblable, mais où le champignon va carrément sortir du carton. On est en train de le cultiver à l'intérieur du plastique. Puis lorsque l'insecte va marcher sur la surface, va se contaminer. On a ce plastique-là qui est envahi par le champignon. On va laisser les insectes marcher dessus pour démontrer en laboratoire si le proof of concept, là, si ça marche.
S'il s'infecte en passant sur ce carton porteur d'un champignon.
Exactement.
Monsieur Lavallée, vous êtes un peu le seul au Québec à travailler, un des rares en tout cas, qui s'intéresse à la grille du frêne au Québec, mais aux États-Unis, en Ontario, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Est-ce que vous pouvez vous inspirer de leurs travaux ou même de ce qui s'est fait peut-être en Asie, d'où est originaire cet insecte-là?
Oui, bien disons que dans le secteur par lequel nous, on le travaille, par les champignons, il n'y a pas vraiment de modèle américain. Au niveau des solutions, je peux vous dire qu'il n'y en a pas vraiment encore, puisqu'on les cherche. Les avenues qui sont explorées sont multiples, par exemple. Ça concerne autant la détection par imagerie aérienne, ça concerne autant l'utilisation de produits de lutte chimique, ça concerne l'utilisation des parasitoïdes et des prédateurs. Ce sont les Américains qui sont allés du côté de la Chine pour aller chercher des parasitoïdes qui étaient spécifiques à la grille. On les a importés dans le but de les documenter, comment se comportait-il. Et il y a même une production, un élevage qui est intensif de production d'un petit braconidé. Donc, c'est une minuscule guêpe qui va aller parasiter les œufs de la grille. Donc, c'est dans le monde de très petit. On sait qu'il y a eu des lâchers qui ont été faits et on retrouve les générations suivantes. Donc, il y a comme une lueur d'espoir de ce côté-là de la lutte biologique. Moi, je pense qu'il faut avoir différentes avenues de façon à ce que la nature puisse... La nature, c'est un intégrateur d'une foule de mesures qui fait que tout est en équilibre. S'il y en a un qui bouge, il se fait rabattre un peu par un autre mécanisme qui le replace à sa position. Et autour de la grille qui est ici, le jeu de domino ne tient pas là, parce qu'il est tout seul. Donc, il n'y a pas vraiment de parasitoïdes qui l'ont trouvé, de prédateurs, de maladies vraiment installées. Donc, c'est vers ça probablement qu'il faut aller, donc vers différents outils. Et à partir du moment où peut-être qu'on introduira une guêpe des États-Unis en documentant qu'elle n'est pas nocive en elle-même, pour ne pas...
Un autre insecte introduit.
Exactement, c'est une autre préoccupation. À ce moment-là, ben, ça pourra faire un outil de lutte supplémentaire qui viendront peut-être à bout de ralentir l'avance de la grille, parce que c'est certain que la grille est installée ici. Puis, en tout cas, il va falloir gérer.
Dans l'espoir qu'il soit installé, pour l'instant, seulement ici, à Carignan.
Ben, oui, ça, absolument. Mais l'avenir le dira.
Merci beaucoup, M. Lavallée.
Au plaisir.
C'était un reportage de Gaëlle Lucia Berdou en compagnie de l'entomologiste Robert Lavallée. La semaine prochaine, dans notre série estivale, il sera question des bernaches. Dans le monde scientifique, les nouvelles vedettes s'appellent nanotechnologies. Et dans ce domaine, le Japon est l'un des trois leaders mondiaux, surtout dans le développement des nanotubes de carbone. Notre collègue Marie-France Bélanger s'est donc rendue au Japon grâce à la bourse Québec-Japon de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et du Foreign Press Center du Japon. Elle est allée voir comment se développe le secteur des nanotechnologies. Voici donc en rappel le reportage qu'elle nous en a rapporté.
Chers athlètes, spectateurs du monde entier, le son de la cloche du temple rappellera désormais que Nagano, avec sa fleur de neige, est déjà une ville olympique.
En 1998, Nagano s'est fait connaître du monde entier en accueillant les Jeux olympiques d'hiver. Aujourd'hui, la ville de quelque 350 000 habitants, nichée dans les montagnes, est dans une toute autre compétition internationale, celle des nanotechnologies. En fait, Nagano est l'un des centres d'excellence dans le domaine au Japon. Et c'est notamment ici que ça se passe, à la faculté de génie de l'Université Shinsu. Nous sommes ici pour rencontrer le professeur Morinobu Indo, considéré comme l'un des grands maîtres en matière de nanotechnologie. Le professeur Indo, aux allures de président de compagnie avec son veston marine et sa cravate, est l'un des spécialistes des nanotubes de carbone. Ces minuscules cylindres, environ 100 000 fois plus petits qu'un cheveu, et porteurs de bien grandes promesses.
Nous pouvons dire que notre université est le leader dans le domaine des nanotubes de carbone, les nanotubes qui constituent le fer de lance des nanotechnologies, le leader parmi tous les nanomatériaux. C'est cette matière qui guide tout le reste.
Les nanotubes de carbone, qui réunis par milliards, ressemblent à de la suie, ont des propriétés exceptionnelles et uniques, ajoute le professeur Endo. Beaucoup plus résistants que l'acier, tout en étant plus légers, les nanotubes peuvent considérablement améliorer les matériaux. Le professeur Endo nous montre toute une panoplie d'objets exposés sur de grandes tables devant son bureau. Il y a notamment une mini-carrosserie de voiture, une bicyclette, une raquette de tennis et une paire de skis. Attention, vitesse assurée sur les pentes, les nanotubes favorisent la glisse. Tout ça n'est qu'un début, le professeur Endo voit très grand.
Je pense que la nanotechnologie peut littéralement sauver la planète. Par exemple, un aluminium avec nanotubes est en cours de développement. Si ça fonctionne, concrètement, ça voudrait dire des voitures deux fois plus légères, donc une faible consommation d'essence et finalement moins de pollution. On mène aussi des recherches sur le cancer des os. Des chercheurs, ici, tentent de voir si des os artificiels fabriqués avec des nanotubes de carbone peuvent stopper la propagation des cellules cancéreuses. En fait, on ne connaît pas encore tous les miracles que les nanotubes de carbone pourront produire. Mais ce qu'on espère éventuellement, c'est que les nanotubes puissent contribuer à résoudre les grands problèmes de l'humanité.
Le professeur Endo n'est pas le seul à voir grand. Pour bien des gens, les nanotechnologies vont entraîner la prochaine révolution industrielle et bouleverser nos vies comme l'ont fait l'ordinateur et Internet. Ici à Nagano, on y croit tellement qu'entreprises et chercheurs travaillent main dans la main pour accélérer le pas dans cette course technologique. C'est ce qui a poussé Nano-Québec, un organisme voué au développement des nanotechnologies en sol québécois, à conclure une entente avec le Nagano Techno Foundation, qui fait justement le pont entre la recherche et l'industrie. Nagano fait donc partie des destinations privilégiées du PDG de Nano-Québec. Robert Crowell était au Japon au même moment que nous.
Le Japon, soit d'un côté de la recherche, mais aussi probablement plus important du côté industriel, est une des leaders au monde. Au Québec, nous sommes beaucoup plus petits. Une des façons de rester au peloton de tête dans les technologies, c'est de travailler avec les meilleurs. Une de nos priorités, c'est de mettre devant les Japonais les opportunités que nous avons. Comme, par exemple, la cellulose nanocrystalline. Ça, c'est une nanotechnologie qui vient des produits forestiers qu'on peut utiliser. C'est un produit vert. C'est très fort. C'est beaucoup plus fort que l'acier, par exemple. Mais ça vient des arbres. La raison que les arbres restent verticales, c'est parce que dans le bois, il y a des choses très, très, très fortes. Une de ces composants, c'est la cellulose nanocrystalline. Alors, au Québec, nous avons des procédés pour extraire de cellulose nanocrystalline.
Et on peut mettre ça dans quoi?
Dans les vernis. C'est 5 fois plus dur que les vernis d'aujourd'hui. Et ça, c'est une chose que nous avons, que les Japonais n'ont pas.
Pas étonnant de constater autant d'intérêt pour ce qui se fait au Japon en matière de nano. Tokyo mise gros sur cette science de l'infiniment petit. En fait, c'est carrément l'une des priorités du gouvernement japonais. En 2008, il a injecté plus d'$1 milliard en recherche et développement dans ce secteur. Nathalie Cavazin est chercheure associée à l'université privée Waseda à Tokyo et spécialiste du développement régional, industriel et de l'innovation.
Le Japon, à partir des années 80, s'est engagé dans le développement de nouvelles industries de haute technologie. Parce que, comme vous le savez, le Japon est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Donc, pour lui, s'investir dans de nouveaux domaines, c'est une question primordiale pour son développement futur. Et en particulier, donc, les nanotechnologies, sont un des domaines sur lesquels il a investi beaucoup en matière de recherche et développement. Et ceci, je dirais, surtout à partir des années 2000.
À l'ombre du mont Fuji, la ville de Mishima, qui compte un peu plus de 110 000 habitants. C'est ici que se trouve l'unité de production et le laboratoire de Tokushu Paper, l'une des plus importantes entreprises dans le domaine du papier au Japon. Car il n'y a pas que le gouvernement japonais qui investit dans les nanos, le secteur privé aussi, un indice sans doute du potentiel pressenti. Tokushu Paper a consacré à ce jour plusieurs millions de dollars pour développer ce qu'elle qualifie de tout premier papier contenant des nanotubes de carbone. Le résultat ressemble à une feuille de papier ordinaire, couleur charbon. Hiromichi Watanabe est directeur des ventes et du développement pour l'entreprise.
On ne connaît pas l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé. Mais dans l'avenir, ce papier avec nanotubes de carbone pourrait être utilisé pour bloquer certaines ondes. Il pourrait être incorporé dans des câbles de haute fréquence ou dans des systèmes de péage des autoroutes. Ça pourrait aussi améliorer la performance des piles à combustible ou des piles solaires. Cela dit, les consommateurs japonais ne verront pas ce papier comme tel, puisqu'il sera utilisé comme composant.
En plein cœur de Tokyo, le gratte-ciel somptueux de Mitsubishi, une multinationale qui rayonne dans une foule de secteurs, de l'automobile en passant par l'industrie chimique et pétrolière, le vêtement et même les produits de beauté. La multinationale a mis au point un ingrédient actif destiné aux cosmétiques, un ingrédient à base de C60, une nanoparticule de carbone. Suishi Yanama est PDG de Vitamin C60 Bio Research Corporation, une société qui appartient à Mitsubishi.
This is a cream and this is a lotion. So there are about
500 cosmetic products already commercialized.
Voici une crème hydratante et une lotion. Ce ne sont que quelques exemples parmi bien d'autres. Au total, sur le marché, 500 produits cosmétiques contiennent cet ingrédient actif que nous avons développé. Le C60, que nous revendons aux entreprises de cosmétiques, permet de lutter contre les rides et la cellulite, d'éclaircir le teint, en plus de favoriser la repousse des cheveux. Pour l'heure, les entreprises japonaises constituent de 80 à 90 de nos acheteurs, mais nous avons aussi des clients en Corée, à Taïwan, en Thaïlande et aux États-Unis.
Thailand and the United States.
Au Japon, plus de 1000 produits dits nano sont déjà sur les tablettes. Ils représentent un marché de plus de 35 milliards de dollars canadiens. En 2030, ce sera 9 fois plus, selon les prévisions du gouvernement japonais. Est-ce trop beau pour être vrai? Il y a tout de même un nuage à l'horizon. Ici, dans ce laboratoire, un étudiant porte un habit de protection qui va de la tête aux pieds, ainsi que des gants et des lunettes. C'est l'une des mesures de précaution prises par les scientifiques qui ont à manipuler des nanotubes de carbone, ces minuscules cylindres dont on connaît toujours bien mal les risques. Le professeur Susumu Arai de l'Université Shinsu à Nagano.
Pour l'instant, on ne sait pas si les nanotubes de carbone sont dangereux ou non pour notre santé. C'est pourquoi nous prenons des mesures de protection pour ne pas aspirer ces particules ultra fines. Donc, obligatoirement, on porte le masque. Et puis, nous avons un système de ventilation qui aspire tous les nanotubes en suspension.
C'est en train que nous nous rendons à l'Institut national de santé et sécurité au travail de Kawasaki, à environ une heure de la capitale. Il s'agit de l'un des nombreux centres de recherche japonais qui s'intéressent aux dangers potentiels des nanomatériaux. Les nanotubes de carbone, qui rappellent les fibres d'amiante avec leur forme allongée, soulèvent bien des questions. Shigeki Koda est directeur du groupe de recherche sur l'épidémiologie et l'évaluation des risques à l'Institut.
Officiellement, jamais personne en sol japonais n'a développé une maladie à cause des nanomatériaux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les nanomatériaux à base de carbone, dont les nanotubes, sont les plus redoutés d'après les tests réalisés sur les animaux. Ce qui nous inquiète, c'est l'exposition à long terme des travailleurs, qui auront respiré ces minuscules particules pendant des années. Peut-être verra-t-on des cas de cancer ou des maladies liées au système respiratoire. Mais ce ne sont que des prévisions. Il y a beaucoup d'inconnus pour le moment.
Dans un tel contexte, pas étonnant que les mesures pour encadrer les nanotechnologies soient plutôt timides, sans grande contrainte. Masayuki Koiwa est directeur adjoint au ministère de l'Environnement du Japon.
Depuis mars 2009, nous demandons aux entreprises qui œuvrent dans le domaine nano de se doter d'un système de ventilation afin de bien capter toutes les nanoparticules fabriquées ou utilisées dans leur usine. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est volontaire. Comme il manque de connaissances fiables sur les conséquences des nanomatériaux sur l'environnement et la santé, on ne peut pas exiger que les entreprises investissent beaucoup d'argent pour prendre des mesures de précaution.
Dans un même esprit, le gouvernement japonais n'effectue pas de contrôle supplémentaire sur les produits nano avant leur mise en marché. Et n'exige pas non plus leur étiquetage. Pour les consommateurs et les citoyens avertis, impossible de s'y retrouver. Dans le quartier Shibuya, l'un des plus achalandés et bouillonnants de Tokyo avec ses immenses panneaux publicitaires, un groupe de jeunes filles offre un spectacle de rue. Ici, l'essor des nanotechnologies ne semble pas susciter de grands débats sociaux, du moins pas pour l'instant. Mais il y a au moins un groupe qui perçoit plusieurs fausses notes dans le développement des nanotechnologies au Japon. L'organisme citoyen contre la pollution chimique a même fait des nanos son principal cheval de bataille.
This is my office.
Voilà, c'est mon bureau ici.
General Secretary of the CSCP.
L'organisme, en apparence sans grands moyens, a élu domicile dans un tout petit local situé dans un quartier populaire en banlieue de Tokyo. Takeshi Yasuma, un ancien ingénieur aux cheveux grisonnants, agit comme analyste pour le groupe.
En fait, le Japon essaie d'arriver premier dans la course aux nanos. L'État et l'industrie travaillent main dans la main pour y arriver. Le problème, c'est qu'on néglige le volet sécurité pour ne pas freiner le développement. L'État a peur que le doute de la population n'entrave le développement en nanotechnologie. Le gouvernement ne fournit donc pas beaucoup d'informations au peuple japonais sur le sujet. Et puis, les lois actuelles ne sont pas adaptées pour encadrer cette technologie émergente.
Les nanotechnologies changeront-elles nos vies, comme beaucoup le prétendent? Certains experts optent pour la prudence. C'est le cas du chercheur Saïd Kazaoui, rattaché à l'Institut national supérieur des sciences industrielles et de la technologie de Tsukuba, une ville académique à environ une heure de Tokyo, l'un des plus importants centres de recherche en nanotechnologie au Japon.
Les nanotubes de carbone et les nanomatériaux en général, en recherche fondamentale, ils ont beaucoup de potentiel. Il y a de très, très belles choses qui ont été faites en physique de ces matériaux. Beaucoup de démonstrations ont été faites par des groupes comme IBM, comme NEC, dans le monde entier. Mais en application, il y a beaucoup de contraintes. Donc on ne peut pas prendre toutes les découvertes de recherche fondamentale et les mettre en application directement. Donc on doit travailler, faire un peu de screening, voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui relève du rêve et ce qui relève de la réalité. Et dans l'industrie, il y aura encore plus de contraintes, en fait. Contraintes de coûts, contraintes de production. Et donc, est-ce qu'il y aura un produit final, industriel, qui sera vendu en grande quantité? Ça, c'est la question fondamentale. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Dire si les nanotubes de carbone, demain, auront un très fort impact sur la société, c'est très difficile à juger.
C'était un reportage de Marie-France Bélanger au Japon.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
L'auteur des Années-Lumière maintenant. Bien malgré elle, la chimie a parfois fort mauvaise réputation et pourtant la chimie nous permet de mieux comprendre la nature pour ensuite savoir comment mieux la préserver. C'est du moins le message de la chimiste Brigitte Proust qui vient de faire paraître « Belle et bio, nature et chimie douce » dans la collection « Sciences ouvertes au Seuil ». Brigitte Proust est professeure de chimie en classe préparatoire aux grandes écoles. Elle est allée en studio à Paris pour partager son amour de la chimie avec Chantal Srivastava. Elle nous parle tout d'abord du type de chimie qui a aujourd'hui le vent dans les voiles.
La chimie qui se développe aujourd'hui le plus, c'est celle qui est tournée vers la production de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, principalement contre le cancer et le diabète, les maladies du siècle. Et puis celle aussi qui s'attaque à la dépollution, qui va essayer de fabriquer des carburants en stimulant l'activité de certaines algues ou de certaines bactéries, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la chimie de pointe aujourd'hui. Moi, mes étudiants, ils rêvent de faire ça, c'est tout à fait certain. Ils ne rêvent pas d'aller construire des usines pour distiller le pétrole ou pour fabriquer des engrais. Non, ils espèrent un jour pouvoir rentrer, par exemple en France, dans l'Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette, où Pierre Potier, un chimiste qui nous a quittés en 2006, a réussi à faire des merveilles avec son équipe sur le plan des produits anticancéreux.
Et ça, c'est une très belle histoire que vous racontez dans votre livre « Belle et bio », Brigitte Proust. Pouvez-vous nous la raconter ?
Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, on a commencé à cribler dans les années 60-70 la nature en espérant trouver des molécules actives contre le cancer, et ils en ont trouvé dans une certaine variété d'IF. Mais ils étaient obligés pour cela d'extraire cette molécule de l'écorce d'un certain IF. Et à la même époque, Pierre Potier et son équipe, qui collaboraient bien entendu avec ces travaux faits par les Américains, sont toujours des collaborations internationales, et essayaient donc de chercher des molécules imitant celle-ci ou dérivées de celle-là. Et puis, il s'est trouvé qu'à Gif-sur-Yvette, donc qui est dans un campus qu'on appelle un peu la Silicon Valley, qui n'est pas très loin de Paris, du côté d'Orsay, on a abattu une grande allée d'IF européens. Ce n'est pas tout à fait la même variété, mais pensant que finalement le taxol, la molécule active donc découverte aux États-Unis, était tout simplement fabriqué par photosynthèse, enfin grâce à l'énergie recueillie par les feuilles des plantes, et ils ont pensé tout simplement à analyser ce qu'il y avait dans les feuilles des ifs. Et c'est là qu'ils ont trouvé une molécule analogue et qui s'est révélée par la suite, en la modifiant un petit peu, beaucoup plus active que le taxol et qu'ils ont appelé le taxotère, donc une nouvelle spécialité qui était moins nocive pour les cellules saines. Oui. C'est une très, très jolie aventure.
C'est une belle aventure qui illustre un peu comment le rôle du chimiste, finalement, si on avait à résumer ce dont il s'agit, c'est d'imiter, de connaître tout d'abord la nature très intimement, puis d'imiter, de copier, voire de faire mieux que nature. C'est ça un peu ce que le chimiste essaie de faire.
Bien sûr, il n'a aucune ambition de détruire, bien entendu, il a l'ambition de créer, et de plus en plus aujourd'hui à l'imitation de la nature, puisque les processus vitaux étant de mieux en mieux connus, il est clair que c'est là qu'il va trouver sa source et son inspiration.
Une chose m'intrigue cependant, c'est que dans tout ce virage bio qu'on nous présente, il y a souvent ce qu'on appelle un phénomène de greenwashing. Tout devient vert et vous mettez en évidence certains cas frappants où on nous présente un produit comme étant une véritable révolution, comme étant naturel, entre guillemets, alors que dans certains cas, quand on regarde de plus près avec le regard de chimiste que vous posez sur ces phénomènes ou ces produits, on se rend compte que c'est peut-être un peu de la poudre aux yeux. Parmi les exemples, les déodorants à la pierre d'alun ou l'utilisation de la fibre de bambou. J'aimerais peut-être que vous décortiquiez un peu avec ce regard de chimiste que vous nous proposez dans le livre, Madame Proust, certains de ces produits et peut-être les mises en garde d'usage qu'il faut faire quant à l'étiquette bio qu'on accole peut-être un peu trop facilement.
Tout à fait. Moi, je crois qu'il faut quand même ne pas oublier le petit peu de chimie qu'on a appris quand on était à l'école, parce qu'on a dû en faire quand même un petit peu. Et à la lecture des étiquettes, on est vraiment surpris. Ou en entendant certaines émissions, même à la télévision, moi, je me souviens d'une émission fameuse du matin, où la présentatrice proposait par exemple la pierre d'alun comme vraiment le minéral naturel sans aluminium.
C'est une pierre qu'on mouille, qu'on utilise comme déodorant. Donc
voilà, tout à fait. Oui. Et donc, alors que le sel d'alun en question est bien sûr un produit naturel, mais qui contient de l'aluminium, c'est évident.
Parce qu'il y a de l'aluminium dans la nature.
Voilà, tout à fait. Oui.
Et la fibre de bambou, ça c'est une autre belle histoire aussi.
Ah oui, la fibre de bambou, mais moi j'étais tout à fait séduite et je me suis dit, tiens, voilà qu'on traite maintenant les fibres de bambou comme les fibres de lin, ça m'a follement intéressée. Puis quand j'ai regardé les étiquettes, j'ai vu que c'était de la viscose. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une cellulose de bambou, sans doute d'origine bambou, mais qui a été chimiquement modifiée par des moyens qui ne sont pas terribles. Quoi.
La viscose, qu'est-ce que c'est dans le processus? Alors, ça pénétrer un peu dans l'univers de la viscose.
Voilà, alors la viscose, c'est une fibre artificielle, comme on dit, c'est-à-dire que c'est de la cellulose qui a été modifiée de façon à ce qu'elle ait des propriétés plus soyeuses. On l'a appelée soie artificielle aussi, quelquefois. Oui. Donc, c'est-à-dire que les groupes alcool qui jalonnent la cellulose ont été simplement chimiquement modifiés, ce qui rend la fibre un petit peu plus soyeuse. Alors, en général, on la mêle à du coton. Mais cette viscose-là, elle est obtenue avec de la pulpe de cellulose qui peut provenir du bambou, qui peut provenir du hêtre, qui peut provenir du pin. Alors c'est sûr que fibre de pin ou fibre de hêtre, c'est moins poétique, moins évocateur.
Est-ce que ça reste quelque chose qu'on peut définir chimiquement comme étant une fibre naturelle?
Pour moi, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que le squelette, évidemment, c'est la cellulose. Ce produit-là est naturel, mais ça a été considérablement modifié et par des méthodes qui ne sont pas anodines pour l'environnement.
À cause des solvants, entre autres.
Voilà, et des produits chimiques qui sont employés. Alors, pour les modifier.
La chimie, par essence, Mme Proust synthétise des molécules. Est-ce qu'elle peut aussi être naturelle ou c'est toujours artificielle fondamentalement?
Alors pour moi, c'est artificiel. Alors dans le cas des fibres, c'est quand le naturel a été modifié. Donc là, c'est un terme complètement codé. Moi, je parlerais plutôt de synthèse. Il y a des molécules de synthèse qui sont totalement créatives, qui n'existent pas dans l'environnement. Et puis, il y a des molécules parfaitement synthétiques, mais qui sont tout à fait, en tout point, identiques aux molécules naturelles. Et qu'en France, par exemple, on a appelé molécules naturelles identiques. Alors, c'est ainsi que, par exemple, dans le cas de la vanille, on peut prendre le cas de la vanille. La vanille extrait naturelle, bon, elle est ainsi extraite des gousses, mais on peut tout à fait la synthétiser et obtenir une vanilline, donc. Je veux parler de la molécule qui parfume les sucres vanillés. La vanilline, donc, peut être un extrait naturel, mais ça peut être aussi un produit de synthèse en tout point identique. Et donc, naturellement identique, naturel identique, comme on dit quelquefois. Et tout simplement parce que les sources naturelles sont épuisables ou sont trop coûteuses. Donc, quelquefois, le produit de synthèse naturelle identique est bien meilleur marché.
Est-ce qu'il est aussi neutre en termes environnementaux? Comment on gère l'exploitation, la mise en valeur de ces ressources naturelles, synthétiques? Est-ce que c'est une aussi bonne molécule que la vanille qu'on extrairait d'une gousse avec les impacts environnementaux?
Alors, la vanilline, évidemment, elle est chimiquement rigoureusement identique. On peut la modifier et obtenir une saveur vanille plus intense en modifiant un petit groupe latéral. Là, c'est un produit de synthèse complètement artificiel. Mais bien sûr, si on prend en compte le coût environnemental, c'est peut-être autre chose. Et c'est cela dont on ne parle pas assez aujourd'hui et dont on ne tient pas suffisamment compte quand on veut comparer l'agriculture intensive sur des immensités et puis l'agriculture biologique, c'est qu'on peut considérer que l'agriculture biologique est plus coûteuse, un petit peu moins rentable, mais si on tient compte du coût environnemental, c'est autre chose. De mon point de vue, il faut vraiment penser bio. C'est-à-dire que je pense que la révolution agronomique et biologique est une absolue nécessité. Je suis arrivée sur cette problématique avec mon regard de chimiste, un petit peu distant, et petit à petit, j'ai compris que si on persistait dans la folie productiviste, c'est la famine qui va s'installer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je suis arrivée petit à petit à une pensée politique. Je ne m'attendais pas du tout à cette évolution personnelle qui n'était pas a priori programmée. Mais je veux dire, en regardant cette problématique avec mon œil de chimiste, je pense avec beaucoup d'économistes aujourd'hui que cette forme d'agriculture conventionnelle extensive représente un véritable danger. Moi, je pense aux pays du Sud et en particulier à l'Afrique. qui voient ces terres arables rachetées par les pays pétroliers.
Ou louées pour un certain temps.
Voilà, ouais. et dont on sait bien qu'ils ne vont pas faire de cadeaux à la terre. Hein. Et que quand ils partiront, une fois leurs bénéfices faits, ils ne resteront qu'une terre complètement stérilisée et ruinée. Donc c'est pour ça que très curieusement, disons, de ma démarche scientifique qui voulait être distante et objective, je me suis retrouvée engagée, si vous voulez, dans une réflexion socio-économique à laquelle je ne m'attendais pas. Et je crois que c'est intéressant d'inviter le citoyen à se poser en tout cas la question pour essayer de se positionner. Et qu'il faut vraiment y réfléchir et en discuter. Et penser à la fois local et global. Et il me semble que la chimie peut accompagner cette démarche parce que l'analyse chimique va permettre de valider de façon fine la démarche de l'agriculture biologique. C'était ça mon message, en fait, aussi.
Brigitte Proust, je vous remercie infiniment d'être venue nous parler de votre livre « Belle et bio, nature et chimie douce » qui est paru dans la collection « Sciences ouvertes au seuil ». Et je rappelle que vous êtes professeure de chimie en classe préparatoire aux grandes écoles à Paris. Mais merci infiniment, Madame Proust.
Merci, Chantal.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est tout pour cette édition des Années-Lumière. L'équipe cette semaine, le réalisateur Dominique Lapointe, le technicien Pierre Fontaine, les journalistes Marie-France Bélanger, Gaëlle Lucia Berdou et Chantal Skrivat-Stava et la journaliste au site Internet Lily Boisvert. On aime entendre vos questions de nature scientifique, vos idées, vos commentaires, alors vous nous joignez au numéro de téléphone suivant 514-597-6166 depuis Montréal, de l'extérieur 1-800-752-9050. Par courriel lumière@radio-canada.ca. C'est Sophie-André Blondin qui vous parle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière.